Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers pour cet épisode de premier tour de draft hier. C'était assez fou, on va revenir là-dessus. Ça a commencé assez soft, mais c'était assez fou. Donc on va regarder ensemble ce qui s'est passé, les surprises, les implications pour la fantasy, nos prédictions pour round 2. Si on est content, pas content, qui sont les gagnants, les perdants. Donc restez avec nous, écoutez cet épisode. À tout de suite. Et on est en direct, midi pile, non midi chez moi, une heure, excusez-moi, j'ai strictement pas dormi de la nuit, je suis entre deux meetings super importants avec des clients, mais on est là, priorité, pour faire l'analyse de ce premier round NFL avec Franz, Antoine et peut-être Alex qui va nous rejoindre plus tard. Comment ça va les gars?
Fantastique. Et toi Marc?
Très bien, très très bien.
Moi je suis en pleine forme aussi, on s'est bien marré hier. J'ai suivi ça à moitié avec des Américains, Football Guys, les Français de Trick Play, le live hein, de NFL Network, du coup, j'imagine. Et je me suis bien marré. Je me suis endormi vers le pick 16 quand ça commençait à drafter des défenseurs. Mais ouais, le début était très intéressant. Alors, on va en parler. On va regarder rapidement. Ça, mais on va ensuite aller en détail. Mais d'abord, les gars, Franz, est-ce que ta première réaction en te réveillant ce matin, à part hors Panthers, t'as pas le droit de parler des Panthers.
Oui, oui, non, bien sûr, non, non. Donc moi, je l'ai regardé. On s'est levé à 6h du matin pour la voir, moi, ce matin. Donc j'ai essayé de tout couper, toutes les notifs et tout pour la voir. Et agréablement surpris, en fait. Je m'attendais à plus de pique un peu fou. Alors, il y en a eu, hein, Dieu merci. Mais au final, il y a eu quand même des pics qu'on avait un peu tous prédits, anticipés. Mm-hmm. Mais il y a des choses à dire sur la fantasy, évidemment d'un point de vue offensif. Alors, pas que les quarterbacks. Là, tu affiches 6 quarterbacks. Ça, quand même, c'est impressionnant d'avoir autant de quarterbacks. Je crois qu'il y a des choses à dire là-dessus.
C'est historique. 6 quarterbacks pris dans les 12 premiers picks. 6 quarterbacks pris dans les 12 premiers picks, c'est un record. Pas de joueur défensif pris avant le pick 15, ça c'est un record aussi, il me semble. En tout cas dans la NFL moderne. Donc ouais, une bonne draft pour la fantasy, hein. Plein d'implications dans le haut de tableau.
Antoine, pas que positif.
Ouais, pas que positif. Antoine, toi, quelle était ta première réaction hors Miami en te réveillant ce matin, en regardant les résultats?
Un peu comme chaque année, c'est-à-dire on entend beaucoup de bruit de couloir avant, ça part dans tous les sens, parce que je pense qu'il y a des équipes qui essayent de faire en sorte que les vents vont dans le bon sens pour eux. Et puis du coup, finalement, très peu de surprises sur les 10 premiers choix. C'est plus moi la suite de la draft. Effectivement, on savait que ça allait être une draft très offensive, donc tant mieux pour la fantasy. La QB défensive cette année, elle permettait pas d'avoir un défensif tackle dans un top 5, en tout cas pas aussi fort. Mais moi je dirais en deux parties. Une première partie où finalement pas trop de sujets jusqu'au pic, 17.
C'est-à-dire quand je suis allé coucher.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, finalement, ouais, assez sommaire. Et ensuite, après, pour moi, c'est vraiment parti dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est là où ça a commencé à faire des panic moves. Là où on attendait peut-être les panic moves au niveau du pick 3, bah là, en fait, finalement.
Ils sont arrivés en deuxième partie.
Ouais, ils sont arrivés plutôt en deuxième partie. Et là, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Parce que c'est il y a un peu de tout, quoi. Il y a vraiment un peu de tout.
Ça marche.
J'ai hâte de savoir s'il y a eu quelques insights après, voir s'il y a eu des appels pour trade pour les premiers picks, voir s'il y a eu des refus, parce que ça semblait tellement cousu de fil blanc les premiers picks, c'est jamais comme ça d'habitude. Même pour Joe Holt, où on disait « Ah bah tiens, c'est Jim Harbaugh, il va prendre un tackle, il ne va pas prendre un receveur, bah bingo !» Je me demande s'il n'y a pas eu des refus de trade quand même. On verra ça dans les prochaines semaines.
Certainement, mais c'est ça qui était marrant. Je suis d'accord avec toi, Antoine. Finalement, quand on regarde le tableau, on se dit oh, bah, c'est un de ceux où ils ont le plus suivi les mocks et le consensus et tout ça. Alors que justement, on avait tous les, je sais pas, la dernière semaine, on s'est persuadé que les Pats allaient peut-être bouger, peut-être même Arizona allait descendre puis remonter. On ne savait pas trop ce que les Chargers allaient faire. New York, c'était pareil, un électron libre. Et puis au final, c'est vraiment le truc le plus vanille qui s'est passé.
Ouais, t'as quelques anomalies quand même hein, à l'intérieur. Je pense qu'on va y revenir.
Ouais, on va y arriver. Je me suis arrêté. Top 6 exprès.
Je pense que par rapport à ce que disait Franz, je pense qu'en fait Arizona, ils sont un peu retrouvés comme des cons. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait de la pub en mode on est ouvert. On va peut-être prendre un QB. Donc en fait, du coup, pour faire peut-être un peu monter la value du pic. En fait, finalement, les mecs, il n'y a personne qui a décroché. Et puis en fait, au quatrième, ils ont dit bon bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend le best player available qui était Marvin Harrison. Et puis, du coup, on va construire là-dessus quoi. Donc ouais, non, je pense que t'as deux trois équipes. À mon avis, ça va être bien marrant d'avoir les dessous dans quelques semaines et quelques jours.
Alex nous a rejoint. Salut Alex. Comment vas-tu? Et qu'est-ce que tu as pensé en te réveillant ce matin? Je sais que toi, tu faisais partie de ceux qui suivaient avec moi sur le trick play, sur le feed.
Salut Marc, salut messieurs. Bonjour à toutes et à tous. J'ai suivi en live, donc dans son intégralité, la draft. Donc, pas beaucoup d'heures de sommeil là. Mais écoute, cette draft, en fait, ça allait bien. Puis d'un coup, patatras. En gros, on a tous vécu ça de cette manière-là. Et c'est parti après totalement en awak à la fin. Étonnamment, c'est un peu exactement la même chose que l'année dernière. C'est-à-dire que les drafts, en fait, les premiers picks, comment ça se passe? Globalement, il y a un consensus. Et puis d'un coup, tu as un premier pick où tu te dis, bon, c'est un peu un reach, c'est un peu... C'est un peu le poste, mais c'est pas peut-être le bon joueur, quoi que ce soit. Et puis après, c'est des dingueries, quoi. Voilà.
Ouais. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. On va commencer par, du coup, le moins de surprises. Hein, les picks 1 et 2, c'était un petit peu un secret de Polichinelle. Caleb Williams, évidemment, son nom appelé en premier pour les Bears. Ça, on le savait tous. Il y avait un petit peu plus de doutes sur Jaden Daniels, même si dans les derniers jours, je crois que sa cote était vraiment tombée. C'était lui aussi quasi sûr qu'il aille aux Commanders. Notre ami français LSU est très content parce que, évidemment, il est fan des Commanders également. Pas de surprise donc, mais est-ce que vous avez une réaction à ces deux pics-là? Est-ce que vous auriez fait différemment et est-ce que ça change l'idée que vous vous faites pour leur carrière dynastie par rapport à hier? Je pense pas, non.
Non. Après, moi, en tout cas, je sais que j'ai mon pic, du coup, pendant ma fantaisie.
Alors, ouais, pics 1-0-1, Caleb.
1-0-1, ça sera Caleb Williams.
Très bien, vous l'avez entendu ici en premier sur la dynastie Fantasy Ballers.
Il y a le 1-0-2. Cette double menace qu'il est capable, même s'il enverra, à mon avis, pas mal de saucisses la première année, mais je lui souhaite le moins possible et je me le souhaite le moins possible. Après, il y a toujours cette question de comportement en fait, en fonction de la saison dans laquelle va se passer. Si les Bears sont à une fiche plutôt très négative la première année, est-ce qu'il sera capable de se dire bon, bah, c'est pas grave, c'est une année où j'apprends? Ou est-ce qu'il fera un peu comme à USC et en fait il se mettra dans des états émotionnels beaucoup trop forts pour ce qui se passe. Et après sur Jaden Daniels, et après je laisse la parole, pas de surprise pour moi. Je pense que c'est un bon pick pour Washington, même si avec Drake May en fait ça pouvait faire, enfin ça aurait pas été choquant de voir Drake May drafté par Washington. Par contre, dans le style de jeu de Washington, avec le jeu de course qui est déjà plutôt bien établi, ça peut être une menace un peu plus forte d'avoir un Jaden Daniels. J'espère juste qu'il n'aura pas un coordinateur offensif comme celui des Colts qui lui permettra d'exposer son corps dans tous les sens. Donc voilà.
Moi, il y avait un truc qui m'intéressait avec Daniels. J'avais vu une proportion à baisser les yeux dès qu'il y avait un peu de pression, à ne pas chercher à baisser les yeux et à ne pas les relever surtout parce qu'on avait pas mal de trucs sur le tape. En tout cas sur les highlights que j'ai vus où il échappe très bien à la première pression parce qu'il est rapide et ensuite il a une opportunité de regarder et là il y avait un Malik Nabers ou Brian Thomas qui était libre et en fait il cherche absolument pas à leur faire la passe et une fois qu'il est parti Et soit il prend un sac, soit il fait une course qui, en général, il a des capacités athlétiques exceptionnelles. Donc, il fait des, tu vois, pour lui, c'est bien. Mais pour ses receveurs, c'est un peu frustrant. Et je voyais même Malik Nabers, parfois, il arrêtait de jouer, en fait. Il disait, de toute façon, c'est bon, maintenant, il est parti, il va pas chercher à me faire la passe. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut vouloir dire pour Terry McLaurin, pour Dotson? McLaurin en particulier, est-ce que c'est le meilleur QB qu'il ait eu dans sa carrière? Mais est-ce qu'il va être frustré par ce comportement s'il se vérifie en NFL?
Alex?
Vas-y, Alex.
Pas de... T'es muté, Alex?
On t'entend pas, Alex.
Ouais, non, c'est, ah bah. J'étais muté, c'est normal. Concernant Daniels, non, mais après... Moi, ce qui m'inquiète, en fait, à Daniel, c'est la ligne offensive de Washington Redskins. Donc, Redskins,
Commander,
lapsus. C'est le vieux qui parle. Mais c'est surtout ça. Et ce qui fait que, du coup, comme tu disais, cette propension dont tu parlais pourrait, à la rigueur, justement, mettre en exergue ces défauts-là. Moi, et surtout en plus le coach de la ligne offensive, quoi. Bon, voilà, tu le connais d'ailleurs, je crois, Marc, puisqu'il est passé par chez toi, je crois, de mémoire. Mais donc, ouais, moi, c'est surtout ça qui m'inquiète. Et c'est pas tant les connexions qu'il pourrait avoir avec les receveurs ou quoi que ce soit, hein, parce que Daniel, si c'est tout faire, il peut envoyer en plus des ballons quand même très, très, très loin. C'est un des meilleurs bras, donc ça pourra courir. Il y a un peu la gestion de tous les arbres de tracé en termes de lancer, c'est pas un problème. Moi, c'est surtout la gestion de la poche avec la ligne offensive et le scramble. Et en fait, si tu veux, on a un peu le même problème que Caleb Williams. Bon, après, en plus qualitatif pour moi. Enfin, ça, c'est mon avis, hein, personnellement. Mais c'est et puis donc du coup après le physique, quoi. Voilà. Il va falloir qu'il contacte, tu vois, Tagovailoa pour faire des séances de jiu-jitsu et compagnie là pour apprendre parce que
pour pas avoir de commotion,
ça va être mal.
Franz, il y a Sean Alexander qui nous demande en termes de hype et d'attente, il en est où par rapport à Richardson? Je pense qu'il parle de Daniels, mais corrige-nous si tu parles de Caleb. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Franz? L'année dernière, Richardson, il y avait un peu du pour et du contre.
Non, mais en dynastie, il y avait du pour, comme du toi, pour. Par exemple, tu avais raison en se disant, bah, si jamais il gagne le poste, alors j'ai un QB pour les prochaines années, puis on verra ce que ça donne. Jaden Daniels, il arrive, il est installé. Et donc il arrive, il est déjà le numéro 1 et le quarterback numéro 1 des Commanders. Donc c'est pas vraiment la, a priori. C'est pas vraiment la même chose. Donc la hype, elle est un peu meilleure pour Jaden Daniels. Par contre, pour réagir, le coordinateur offensif des Commanders, c'est Cliff Kingsbury. On a vu ce qu'il a fait avec Kyler Murray. On a vu ce qu'il a fait avec Kyler Murray et une ligne offensive qui est un peu moyenne. On peut attendre en fantasy à avoir des stats qui se ressemblent un tout petit peu pour Jaden Daniels, et on peut s'attendre, comme le montre Alex, pour ceux qui sont en podcast, à avoir un petit peu peur de son physique. Mais attention, hein, il reste encore 6 autres tours.
Oui.
Okay, ouais, alors du coup, moi, je fais tout de suite un contre-argument. Dernier argument de France en disant 6 derniers tours. Justement, combien y a-t-il de tackles qui ont été pris au premier tour, là, hier?
Énorme.
9, je crois. Ou 10. 9. C'est énorme parce que justement, la classe, tu vois, les receveurs, on disait les corners, etc., c'est profond. Les tackles, donc moi, je m'étais dit, il va falloir quand même qu'il y a qui bosse. Surtout qu'ils ont plein de pics, donc j'espère pour eux qu'ils vont être très agressifs au deuxième tour.
Ouais, c'est ce que je ferai à leur place, oui.
Ouais.
Bon, après, il ne reste plus que des centres et des gardes. Hein. Donc en fait, il y a moins de tackles. Il y a des tackles avec des gros potentiels, mais très très bruts encore. Là, en premier first day ready, les 9 qui sont partis, potentiellement, ils seront starters dans une équipe. Il y a quand même un sujet chez les Bengals, mais bon, je ne sais pas s'ils avaient toute leur tête quand ils ont drafté en 16. Mais après, en tout cas, ça sera un peu plus dur. Mais tu peux quand même, parfois, chaque année, tu as quand même un ou deux mecs qui sortent un peu de nulle part, qui n'ont pas fait les grosses écoles et pour autant, ils font des très belles choses. Donc,
Ça
va dépendre comment ils vont construire et avec quelle rigueur.
Ouais. On va enchaîner. Troisième pick, on attendait peut-être Minnesota, on attendait peut-être les Giants. Finalement, c'est les Patriots qui ont pris Drake May, leur QB du futur. Peut-être le plus mauvais des trois landing spots, hein, pour un QB rookie, mais Il y a quand même Jacoby Brissett qui peut éventuellement peut commencer l'année, voire jouer l'année entière. Il est compétent, donc à voir ce que décident de faire les Pats avec Drake May. Est-ce que vous êtes satisfait de ce pick, son landing spot et son futur?
Moi, je suis désolé pour lui, mais après, non, mais enfin, en toute objectivité, hein, parce que il n'y a pas de projet offensif qui est en train de se construire à New England, donc. À prendre derrière Jacoby
Brissett. À voir ce qu'ils prennent au début du deuxième round.
Ouais, mais bon, à prendre derrière Jacoby Brissett, c'est pas pareil qu'à prendre derrière un QB qui potentiellement, tu vois, finalement, le plus gagnant dans cette histoire, on en verra après, c'est peut-être Michael Penix. Mais donc, du coup, en fait, je pense que, du coup, c'est peut-être le surexposé à un moment. Après, la chance qu'il a dans son. Non, peut-être son malheur de choix, mais bon, encore une fois, c'est pas lui. C'est qu'il va être dans un environnement qui est plutôt serein, parce qu'on n'attend pas grand-chose finalement de cette équipe offensivement pour la première année. Donc, il va avoir le temps de progresser, de apprendre à lire une défense. Donc, ouais.
Ouais. Ouais, nouveau régime, ils seront peut-être plus patients. Autre chose sur May ou on enchaîne?
On peut enchaîner, je pense.
Marvin Harrison, sans en grande surprise, premier receveur pris par les Cardinals, du coup. Très bonne nouvelle pour Kyler Murray, je pense.
Ouais, complètement. Très bonne nouvelle pour ceux qui sont en round 1, pick 3, 4, 5 en dynastie. Et voilà, c'est on a hâte de voir si c'est la même dynastie que son père et puis et si c'est exactement le joueur qu'on nous prédit. Mais il faut le prendre, hein, en dynastie, hein, vous réfléchissez pas.
Ouais. Si vous êtes premier receveur à prendre en dynastie également.
Je pense, oui. Je pense, alors honnêtement, on en parlera. Non, mais ça se bagarre avec Neighbors, moi je trouve. Voilà, sûr, parce que. Parce que dans les deux cas, il y aura des ballons. Maintenant, quel est le meilleur quarterback? C'est une question de goût. Quel est le meilleur quarterback entre les deux, entre Daniel Jones et Kyler Murray? Est-ce que Kyler Murray a le physique pour faire toute la saison? Chacun peut se faire son opinion par rapport à ça.
Ouais, bah c'est pour ça qu'on va enchaîner, du coup, pour voir Neighbors, mais aussi pour voir le troisième receveur qui a été pris, parce que peut-être que finalement, c'est peut-être lui le meilleur landing spot. Mais d'abord, Joe Alt pour les Chargers, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Évidemment, on ne joue pas avec des tackles en fantasy, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut vraiment dire que les Chargers ne mentaient pas quand ils ont dit qu'ils sont une organisation qui veut établir le jeu au sol. Ils prennent Joe Alt pour protéger leur QB, pour établir ce jeu au sol. Ils n'ont pas pris un receveur alors qu'ils en ont. Leur receiving room actuellement, c'est Josh Palmer, Quentin Johnston, Davis, un autre rookie qu'ils avaient pris, je crois qu'ils avaient pris deux gars de TCU l'année dernière, et puis Fehoko, enfin bref, il n'y a personne. Ils ont pris.
Guyton.
Ouais, ils ont pris Joe Alt. Meilleur tackle, hein, a priori. On avait parlé de la TAM à un moment, mais finalement, ils n'ont pas fait une imp. Voilà. Autre chose à dire sur ce pic, à part le fait que on est un petit peu inquiet pour Herbert, non, par rapport à ses performances fantasy passées. Bah, il n'aura pas le même volume.
Bah, en tout cas, pas sur la première année. Ça, c'est évident. Bah, ça va faire un peu comme une chicane.
Parce qu'en même temps, ça protège plus.
Ouais, mais.
Il fera des blessures, donc il sera déjà peut-être plus sur le terrain aussi. Ça, c'est peut-être pas
est-ce
mal.
Que vous... Ouais, c'est sûr. Mais est-ce qu'on préfère l'upside qu'il avait, que... finir QB4 en ratant 3-4 matchs, ou faire toute la saison QB15
Faut
donner le ballon à running back. À qui il va faire des passes là?
Bah, ils ont encore 8 picks.
Ouais. Non, mais au round 2, il fera des passes au round 2 ou au round 3.
La classe à l'édip.
Round 2, ils vont prendre un linebacker.
Non, mais même la classe à l'édip sur les receveurs. T'es pas à l'abri qu'il ait un ou deux gars dans l'eau qui soient starter.
Voilà, déjà, il y a des pépites en receveur sur les tours suivants que les tackles par rapport à ce que tu disais, Antoine. Mais bon, moi, je dis que c'est pas trop un souci, quoi.
Moi, je pense qu'il va perdre 20% de sa production de passes la première année. Ouais, bah, parce qu'ils vont établir un jeu de course et que ça va être plus naturel. Ça sera beaucoup plus naturel sur le running play.
À cause de la philosophie. Ah, 1, 2, 3, 4. De la philosophie du coach. Mais il y a encore 8 picks et je rappelle qu'il reste T. Higgins. aussi. On ne sait jamais.
Non, mais il y en a plein. Odell Beckham, il n'a pas signé.
Beckham, ce n'est pas T. Higgins, tu vois. Moi, tu me mets T. Higgins avec Justin Herbert, mon ranking, il change.
Ouais, mais après, il y en a un qui a une bague et l'autre, il n'en a pas, quoi.
Ouais, il y en a un qui est en chaise roulante. Donc, bon, si on continue comme ça.
Dans la mock draft que j'ai sous les yeux pour les rounds 2 et 3. Ils prennent le linebacker Junior Colson de Michigan au round 2 et le running back de Michigan au round 3, Blake Corum. Donc il faudra peut-être attendre.
Blake Corum, c'est très certainement possible qu'il se retrouve au Chargers.
Il faudra peut-être attendre samedi pour des receveurs. Malik Nabers, drafté par les Giants, encore une fois. Moi j'étais rassuré, je commençais à stresser un petit peu. Je me disais, oh là là, il y a JJ McCarthy qui est dispo. Je suis pas le plus grand fan de McCarthy, même si j'aime bien ce qu'il sait faire, mais j'ai des doutes sur son plafond plutôt. On en parlera dans deux secondes. Mais Malik Nabers, j'étais content. Mais malheureusement, je suis obligé de reconnaître avec d'autres. Moi, je suis inquiet pour son landing spot, year one en tout cas, parce qu'on n'a pas de QB. Voir si on en draft un plus tard. Peut-être Spencer Rattler qui n'a pas été drafté encore. Mais en tout cas, pour le moment, Daniel Jones, il a certaines qualités. Moi, je suis un de ses plus gros défenseurs, évidemment, parce que je suis un homer. La précision de passe, la vision sur des passes longues, sur des trucs comme ça, il n'a jamais montré. Après, il n'a jamais eu un receveur comme Malik Nabers dans sa carrière. Donc, peut-être qu'il va nous surprendre. Voilà, je pense que Nabers aurait préféré peut-être.
Ouais, mais ça peut être une question de volume. Hein. Après, en effet, Daniel Jones n'est pas le bon quarterback pour alimenter trois receveurs, un tight end et tout. Mais après, dans le volume, Nabers, je pense, beaucoup de ballons. Donc, après tout, en année rookie, avec Daniel Jones, s'il fait 10 points par match, Nabers, c'est déjà bien.
Hein. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on attend de lui. Mais après, je reviens. Je suis d'accord avec toi que Daniel Jones, il a jamais eu un receveur qui tenait la route. Même un mec médiocre. Hein. Il a toujours eu des receveurs qui étaient vraiment parmi les pires. Et qui se blessait tout le temps. Donc, si Nabers est vraiment un WR1, parce qu'il a vraiment un profil exceptionnel, c'est pas juste un bon receveur. On a dit que les trois tops de cette classe étaient potentiellement générationnels, auraient certainement été pris numéro 1 dans les trois années précédentes. Ça peut être justement le joueur qui permet à Daniel Jones de développer son jeu à la passe et peut-être de sauver une fois de plus sa carrière. C'est le mec le plus chanceux de la ligue. Il en est à sa cinquième année alors qu'il est toujours médiocre. Mais à voir.
Non, ce qui est plus inquiétant pour New York, parce que moi je trouve que c'est très bien Nabers New York et pour la fantasy, moi ce qui m'inquiète un tout petit peu plus à la rigueur, ce qui le downgrade un tout petit peu, c'est très peu de picks côté Giants pour venir protéger Daniel Jones un petit peu plus, parce que malheureusement Evan Neal, je suis navré, mais ça marche pas. Et puis, mais sinon le schedule va être un peu meilleur que l'année dernière, en termes de difficultés, donc Mike Nabers peut quand même contribuer. Hein. Si quelqu'un a déjà un receveur 1 et un receveur 2 dans son équipe qui veut le prendre au premier tour, Malik Nabers, je comprends parfaitement.
Hein. Ouais. Je viens de faire une moque là, vite fait, sur Sleeper. Malik Nabers, il sort en 3.
Ouais, en Superflex, oui. Je pense qu'il peut partir 3e. Moi, je suis
déçu pour lui. Je pense que je suis comme Marc. La première année, malheureusement, sa production elle sera quand même un peu limitée, peu importe le QB. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de ligne pour protéger.
Disons que par rapport à Arizona, tu posais la question en France tout à l'heure. Perso, moi, je préférerais tomber à Arizona que tomber à New York.
Mais bien sûr. Mais par rapport au prochain dont on va parler dans une seconde, je me demande si je préfère pas Nabers.
Okay. Ah oui, oui.
Je dirais pourquoi.
On est d'accord.
Alors, continuons. Mais d'abord, surprise!
La dinguerie.
Il y a une équipe qui s'est présentée à la draft et qui ils ont. Alors je dis toujours, si vous faites une dynastie, c'est quoi la chose la plus importante? Je le répète tout le temps, c'est de connaître les règles. Atlanta, ils sont venus à la draft, ils ont cru qu'ils jouaient en super flex, les mecs. Ils ont pris Michael Penix Jr. avec le pick 8, 3 semaines après avoir donné plus de 100 millions de dollars à Kirk Cousins. La grosse surprise de cette draft, parce que honnêtement, j'en ai bouffé des mocks, j'ai jamais vu ça. J'en ai vu des trucs rigolos à Atlanta, hein. J'ai vu Malik Nabers, j'en ai vu plein des trucs rigolos, mais j'ai pas jamais vu Michael Penix à Atlanta, alors que JJ McCarthy était encore dispo, et qu'à la limite, si tu te dis, on prend un gars très jeune, qui a peut-être besoin d'un peu de temps d'acclimatation, qui va jouer tu vois, 2 années sur le bench à apprendre de Kirk Cousins, ok, mais non, ils ont pris le mec qui a 25 ans,
les deux,
peut-être un peu, avec un historique de blessure, et qui du coup, si Cousins joue au moins 2 ans sur les 4 qu'il a de contrat, il aura quoi, 27 ans quand il sera starter. Et en plus, il a un style de jeu totalement différent. Il est gaucher, il n'est pas le même. Enfin bref, je comprends perso pas trop le pick, mais buy me into it. S'il y en a un de vous qui veut le défendre.
Incompréhensible.
T'as dit le mot acclimatation, ça ressemble vraiment au jardin d'acclimatation chez l'Atlanta Falcons.
Je pense même que le propriétaire, il savait même pas. Je pense même que le propriétaire. Ah non, mais
moi, je crois qu'il y avait peut-être le proprio a peut-être fait le deal avec Cousins. Le GM voulait un. Enfin, j'en sais rien, je sais pas ce qui
s'est passé. Même pas. Je crois qu'il a été contacté. C'est un peu comme Rodgers avec Love. Je crois que Cousins, il a été contacté juste avant le pic ou un truc comme ça en plus.
Donc, ouais, bah ils lui ont pas dit, ouais, parce qu'ils voulaient pas que ça se sache. Mais enfin bref, ouais, c'est un peu étonnant. Le seul truc qu'on peut éventuellement se dire, ok, ils ont Kyle Pitts, London et Bijan, donc tous les trois, d'ailleurs pick 8 à chaque fois, je crois dans 4, 8 et 8, quand ils vont arriver à renouveler leur contrat, c'est-à-dire bah, je crois l'année, peut-être dans 2 ans, 3 ans et 4 ans, le fait qu'ils aient Penix, si Penix est bon et qu'ils le voient jouer, et que tu vois, ils se disent bah ouais, je reste à Atlanta parce qu'il y a un plan de succession avec Penix, etc., plutôt que de reconstruire au moment où ils doivent re-signer leur contrat. C'est le seul truc que je peux voir. Mais encore une fois, pourquoi faire ça au pick 8 ? Peut-être que quelqu'un l'aurait pris, j'en sais rien. Mais... Enfin bref, j'ai rien compris. Pick 8, les mecs, ils arrivent. Michael Penix Jr. J'étais parti. J'étais bon, là, c'est peut-être un pick qui m'intéresse moins. Ils vont prendre un defensive end ou quelque chose. Je suis parti chercher un truc à boire. Je suis revenu, j'ai vu Michael Penix. Je t'avais quoi ?
D'un point de vue.
Il sort en 2-2 là dans la moque.
D'un point de vue vrai NFL, c'est incompréhensible. Enfin. Je crois qu'on a celui qui dit qu'il n'a pas été surpris, c'est un menteur. D'un point de vue fantasy, celui qui a Kirk Cousins dans son équipe peut le prendre. Ça va lui faire son remplaçant, donc ça c'est déjà très bien. Après, moi, dans mon ranking des QB, je ne vais pas bouger Kirk Cousins. Petit teaser sur le ranking, moi j'ai Kirk Cousins assez haut, beaucoup plus haut que les autres années, de par l'équipe quand même, parce qu'il y a quand même des armes pour lui. Je ne vais pas changer parce que Michael Penix est là.
Surtout c'est qu'on parle d'un mec.
Ouvre les yeux sur Cousins.
Non, je n'ouvre pas les yeux, je me rends compte de.
Ça me fait mal de le dire. Mais moi, je suis
il se rend compte que c'est un vrai QB. Oh merde, c'est un vrai QB.
C'est un QB moyen qui a un upside en fantasy de par les armes qu'il a autour de lui.
Oui, ouais, je suis d'accord.
Je vais te dire un truc. Les images que j'ai là sur les illustrations, c'est la NFL Twitter qui les poste. À chaque pic jusque-là, 3 minutes après, il y avait l'illustration. Penix, j'ai attendu un quart d'heure. Les mecs, ils étaient en panique. Ils
dessinaient.
Ah, Penix, il fallait dessiner Atlanta. On n'avait absolument pas ça dans nos scénarios. Ouais. Et non,
ils ont commencé à le faire au burin sur du marbre. Oh merde. Non, mais c'est bien parce qu'on s'emmerdait un peu en fait dans cette draft.
Ah, si ça m'a réveillé.
On était là avec les photos de Trick Play. Que je salue et vous disiez bon c'est un peu cousu de fil blanc etc mais là ouais ça nous a pip
même Rome Odunze c'est incompréhensible.
Alors Rome Odunze, alors lui pour le coup il était drafté souvent dans les mocks pick 9. Antoine tu dis c'est incompréhensible, Franck tu disais c'est un moins bon landing spot, moi je suis ouais peut-être pour l'année 1 c'est moins bien mais je pense qu'avec le projet des Bears pour la dynastie si on est en horizon à 2, 3, 4 ans c'est pas mal. Exactement. Grâce à son QB. Donc tout dépend un peu de ce qu'on veut. Mais vas-y, je vous laisse la parole. Odunze, aux Bears.
Peut-être c'est génial pour les Bears.
C'est pour... Ouais, mais c'est pas génial pour DJ Moore et Keenan Allen.
Non, mais moi, je dirais juste qu'en fait, déjà, moi, j'attendais un défenseur en fait, chez, chez les Bears. Moi, j'attendais plutôt un Jared Verse ou autre. Je dirais juste qu'en fait, en prenant Odunze, les gars, en fait, ils se blindent pour l'après Keenan Allen. Basta. C'est tout.
Déjà, et puis surtout,
il y a encore 2 ou 3 ans.
Les actions, ouais. Mais les actions qu'ils ont faites, moi, je dirais juste les actions qu'ils ont prises là depuis un mois et demi, enfin même depuis l'année dernière, mais depuis en free agency et à la draft, pour le moment, ils font tout ce qu'ils n'ont pas fait avec Fields, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur QB et ils font absolument tout pour le mettre dans une bonne situation. Ils ont ajouté Keenan Allen, DeAndre Swift, de la ligne offensive, si je ne dis pas de bêtises, et Rome Odunze maintenant. Ils ont encore un pic, si je dis pas Didi aussi, qui arrive.
Attends, c'est...
Au round 2. Donc, ou peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas...
Ouais, ils ont 4 picks en tout. Hein.
Ouais, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose derrière.
Non, mais ils avaient... des pics concentrés. En fait, moi, moi, ce qui me dérange avec ça, c'est que je suis de l'avis de Alex, c'est qu'ils avaient la possibilité en deux choix de venir équilibrer un peu leur équipe pour construire des bases solides. Et en fait, ils mettent tout sur un seul côté du terrain, alors que l'année dernière, la défense de Chicago, elle prend des camions de yards sur certains matchs, quoi. Donc en fait, c'est ça moi que je trouve un petit peu dérangeant à l'intérieur. De plus, sur une position, ils auraient pris un running back, j'aurais été moins choqué, je me serais dit bon.
Ouais, un running back en neuf, t'aurais été choqué de fou.
Non, mais alors par rapport à la classe qu'on a cette année, oui. Mais par contre, j'aurais été moins choqué dans le.
Mais Fashanu, Fuaga, je veux dire, t'as deux tackles qui sont.
Oui. Je te dis pas le contraire.
Tombent dans les mains.
Je te dis pas le contraire.
Non, mais même, je veux dire, t'as encore Dallas Turner, t'as Jared Burst, t'as Fuaga, t'as Fashanu. T'as une classe de malade. T'as les meilleurs prospects hors QB, parce que moi, les QB, je les mettais pas en mes top 10. Enfin, what the fuck, quoi.
En tout cas, en fantasy, ça dévalue, je suis désolé, mais ça dévalue DJ Moore et Keenan Allen un petit peu, quoi. Parce que...
ouais. DJ Moore, je suis pas sûr. Oh, Keenan Allen, certainement.
C'est
pas le même rôle. Parce que le jeu de Caleb Williams, on est sur du yard after catch hein, essentiellement. Et DJ Moore, pour moi, est le plus talentueux en yard after catch.
Ah bah là, tu prêches un converti. Néanmoins, il y a quand même des ballons à distribuer.
Oui, d'accord. Mais et puis en plus, il y a quoi que mettre. Donc pour moi, tu vois.
Et DeAndre Swift.
Non, mais pour moi, les deux. Ouais, en sortie de backfield, ouais, la rigueur, mais pour moi, la rigueur, Kokmet, DJ Moore, ça peut être un peu iso, quoi, globalement.
Ouais.
Keenan Allen, après, Keenan Allen, encore une fois, il avait pas mal de fois l'infirmerie, quoi. Donc, c'est là où je dirais qu'il y a une logique à la rigueur.
Non, mais c'est pareil, là, on commence à dire qu'ils ont 3-4 receveurs de très grande qualité, il ne pourra pas distribuer le ballon sur tout le monde.
Après, on n'a jamais trop de talent, hein, on va dire, mais bon.
Ouais, oui. Faut qu'il ait le temps de lancer, hein.
Non, mais en plus, alors Keenan Allen se blesse, mais DJ Moore, pas beaucoup. Hein, donc,
Ouais. Puis même Keenan Allen, il joue souvent blessé aussi. Hein. C'est un mec qui il est un peu. Ouais,
mais alors, tu fais 1 et 1 bis. Hein. Ça a fonctionné chez Bengals, ça a fonctionné à plein d'endroits.
Ah, regarde, les Eagles. Attends, c'est clair que c'est hyper excitant. Hein. Je veux dire, les Bears font partie des équipes.
Moi, je suis pas d'avoir joué. Je suis fan de Dunze. Enfin, moi, j'ai un autre joueur qui sera au deuxième tour que je préférais chez Washington, à l'Université de Washington, mais bon.
Ouais, ok. Mais en tout cas, pour la fantasy, force est de constater que tu peux pas avoir le même ranking avant et après au Dunze.
Ah non, ça c'est sûr.
Voilà.
D'accord.
Mais pour Caleb Williams, c'est top.
Ouais. Ouais. On enchaîne. Les Vikings qui ont fait un petit trade-up du coup, d'une place pour prendre leur QB, JJ McCarthy. Ça, c'était pas une grosse surprise. Du coup, McCarthy, c'est peut-être un des meilleurs landing spots parce qu'il arrive dans une équipe qui a des très bons receveurs. Mais est-ce que c'est le bon joueur pour Minnesota?
C'est pas ce que disait Valentin de Trick Play. Je lui fais confiance là-dessus. Après, moi, je connais pas assez. Je vais laisser mes camarades, mais c'est vrai que quand tu regardes Justin Jefferson et Addison, merci.
Et DJ Hawkinson aussi, quelque part.
Oui, mais donc du coup, là, je parlais plutôt d'Addison et Jefferson, où en fait, ça va essayer d'attaquer un tout petit peu la profondeur. Ouais. Apparemment, ça serait pas le bon quarterback pour ça. Je sais pas si vous, Antoine et Alex, vous êtes d'accord là-dessus.
Bon, je sais pas si
Antoine va te dire non, il n'y a pas de problème, et moi, je vais dire oui, il y a un problème.
Non, c'est pas qu'il n'y a pas de problème, c'est que je sais pas si c'est. En tout cas, aujourd'hui, il a le bras pour. Après, dans le style de jeu à l'université qu'il avait, on lui demandait pas d'attaquer la profondeur. Donc, ça reste une inconnue là-dessus.
Ça, c'est un peu plus une projection. Ouais.
C'est une projection. Par contre, ce qui est sûr, moi, ce que j'aime bien avec DJ McCarthy, c'est qu'il a, il a le calme, il est plutôt serein en lui, tu vois. Et ça, là-dessus, il me fera un peu plus penser à Kirk Cousins à certains moments dans le jeu, capable de distribuer le ballon simplement, sans en vouloir en faire trop, et en essayant d'avoir un maximum de moins en moins d'erreurs en fait à l'intérieur. Mais ça reste une projection. Il n'était pas attendu dans le. Ça serait le joueur que on pense être champion NCAA, incontestable, etc., etc. Il serait parti dans les trois. Hein.
Ouais, donc, c'est sûr.
Donc aujourd'hui, il n'est pas parti dans les trois parce que Il y a une inconnue sur le style de jeu qu'il a eu à l'université, et donc du coup dans sa palette on n'a pas vu grand chose. Tous les mecs ont fait waouh quand il a lancé une passe à son pro day alors qu'il y avait zéro défenseur et qu'il y avait personne, comme tout le monde fait, c'est devenu maintenant un peu un cirque. Donc voilà, il y a tout ça encore à faire. Je pense qu'il est dans la bonne équipe cependant pour réussir de manière plutôt tranquille, avec les bonnes possibilités.
Parce que tu as Aaron Jones en plus derrière.
Ouais, t'as du monde pour l'entourer sur le jeu de course. T'as Justin Jefferson, c'est qui gommera en fait les erreurs de lancer parce qu'il sera capable d'attraper n'importe quel type de ballon.
Oui, il y aura quand même peut-être, je pense, Sam Darnold d'abord.
Oui, non, mais il apprendra. Il y a pas de.
Donc, c'est pour ça qu'Aaron Jones, ils vont l'utiliser à mort justement pour le jeu de course avec Sam Darnold, histoire que McCarthy se mette en place.
Tout à fait. Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Par contre, c'est très bien joué de la part des Jets d'avoir trade down de 1 parce qu'ils ont récupéré quelques picks, surtout qu'ils n'avaient pas de sujet majeur, et d'avoir récupéré un tackle qui est vraiment un de leurs needs.
Les Jets, c'est une folie, quoi. Les gars, ils avaient qu'à se baisser pour ramasser face à nous, quoi.
Exactement.
Roger, s'il a vu ça, il a fait, c'est bon, ça va. Ouais. Tranquille.
Ouais. Je leur souhaite d'avoir la capacité de vraiment bien le développer et pas de faire les bits qu'ils ont fait avec Becton et les autres qui étaient censés être.
Becton, c'est pas le même problème, ils sont blessés.
Ils n'ont pas réussi à le développer.
Ah bah, oui, quand tu es à l'infirmerie tout le temps, c'est compliqué aussi à développer.
Ouais.
Très bonne nouvelle pour l'offense des Jets et pour Rodgers. Ensuite, on a eu encore une petite surprise. On savait que les Denver Broncos étaient intéressés par un QB. On pensait pas qu'ils utiliseraient leur pick 12 pour prendre le 6e sur la liste, Bonix. Un autre QB qui est un petit peu plus âgé, qui a été bon, mais sans montrer de talent particulièrement éclatant avec un upside de ouf. Bonix, Zach Wilson, Jared Stidham, qui va sortir de vainqueur de cette battle.
Mais au début, je pense que ce sera Stidham. Pourquoi, j'en sais rien, mais bon, c'est mon avis. Mais je pense que les Broncos, ils se sont fait avoir dans cette affaire.
Je suis pas sûr.
Ils se sont fait avoir parce qu'ils étaient obligés de prendre Bonix. Ils se sont retrouvés dans une situation où ils n'avaient pas le choix. Derrière, il y a les Raiders. S'ils ne prenaient pas Bonix là, les Raiders pouvaient le prendre. Donc, même s'ils avaient d'autres personnes sur leur board, ils étaient obligés de prendre Bonix. Soit ça, soit alors ils prenaient quelqu'un d'autre et ils se disaient, on va prendre Spencer Rattler plus tard. Mais. Donc au final, surprise oui et non pour moi.
Ouais.
Non. Pour moi, ils ont surfé sur. Après, je vais laisser Alex parler parce que je pense qu'il connaît un peu mieux que moi. Mais pour moi, ils ont surfé sur l'effet. J'ai perdu son nom. Quarterback de San Francisco, Brock Purdy.
Ouais.
Ils ont surfé sur l'effet Brock Purdy en se disant putain, Bonix. Quand tu le regardes un peu jouer en universitaire, tu te dis putain. C'est pas le même mec que Brock Purdy. Par contre, il y a des similitudes dans la carrière qu'ils ont fait quand Brock Purdy était à Texas et que lui était à Oregon. Et ils se disent putain, est-ce qu'on va pas passer à côté d'un mec? De toute façon, ils n'avaient pas le choix, comme a dit Franz. Ils étaient obligés de prendre un quarterback parce que je pense qu'il a mis sa carrière en jeu, l'artiste. Donc Sean Payton. Donc voilà, ils n'avaient pas trop le choix. Par contre, ça, c'était quand même depuis 2-3 semaines qu'ils avaient targeté Bonix en disant qu'ils le prendraient au premier tour, de toute façon, parce que c'était une des seules équipes qui était potentiellement intéressée. Là où je ne suis pas d'accord avec Franz, c'est que je pense que les Raiders ne comptaient pas prendre un quarterback sur le premier tour parce qu'ils sont plutôt contents de Aiden O'Connell et qu'ils sont capables de le tester pendant une année pour voir ce que ça va donner. De toute façon, à la limite, tu prenais pas grand chose de plus. Ils sont sur un nouveau CIEC, nouvel head coach. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais qu'ils étaient plutôt intéressés par avoir une véritable cible, et Brock Bowers fitait plutôt pas mal avec l'offense qu'ils voulaient en mettre. Sauf que Brock Bowers, ça faisait quelques semaines qu'il était attendu dans le top 10. Et donc, du coup, potentiellement, plus ils pouvaient lâcher des fausses infos, plus ça leur permettait peut-être de faire reculer quelques joueurs. Et là, du coup, je trouve qu'en tout cas, c'est plutôt bien joué de la part des Raiders. Je ne les voyais pas partir sur un quarterback, en tout cas.
Pardon, Alex. Juste pour répondre, je n'ai pas dit que c'est ce que les Raiders allaient faire. J'ai dit que les Broncos pouvaient croire que les Raiders allaient faire ça.
Ça, d'accord.
Pardon, vas-y, Alex.
Non, rien à dire, à part que c'est bien, Zach Wilson va encore apprendre. Il a appris auprès de Rodgers, il va pouvoir apprendre auprès de Bonix. Et ensuite, Bonix, c'est quand même un nombre de matchs incalculable en université. C'est très, 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 très grosse expérience. Pour moi, c'est peut-être le plus expérimenté de tous en termes de quarterback, en termes de régularité et expérience. C'est pas la SEC, mais c'est la feu Pac-12. Mais bon, c'est. Voilà.
C'est celui qui s'est bonifié le plus, du coup.
Hein ?
C'est celui qui s'est bonifié le plus, du coup.
Oui, c'est Bonixifié plus, ouais, c'est ça. C'est Astérix, il y a Bonix, ouais.
C'est pas un mauvais pic, hein. C'est pas un mauvais pic.
Non. En termes de fantasy, c'est des quarterbacks que tu prends allègrement dans les derniers rounds, derniers pics, pour dire.
Bye week.
Sur un malentendu, ça peut fonctionner, quoi.
Pour la bye week.
Moi, je préfère prendre Bonix, tu vois, en fantasy, que Penix à l'heure actuelle. Après, pour revenir à Brock Bowers, en fait, il y a beaucoup de gens qui se posaient la question en live, mais je comprends pas ce que font les Raiders. Et en fait, c'est pas si absurde que ça. D'abord, on a déjà vu des équipes avec deux tight ends. Deuxièmement, c'est pas Aiden O'Connell qui sera le quarterback. Antoine, ça sera Minshew, je pense. Ils vont pas partir avec Aiden O'Connell. Aiden O'Connell, pour moi, ils ont leur QB2, c'est pour ça qu'ils ont pas pris Bonix.
Pour moi, ils ont gardé Minshew, c'est leur QB2. En fait,
je préfère en tout cas Minshew, et en termes de fantasy, je préfère Minshew. Et Minshew, c'est jouer avec les tight ends. Et on l'a vu à l'occasion. Donc, ça lui fait des cibles. Voilà.
Mais ils vont faire un 12 personnel avec
Michael Myers.
Oui, et donc du coup, le running back, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Bref.
Zamir
White, voilà. Zamir White. Ils vont faire un tour personnel, jouer assez simple, course petite et passe petite
ils vont faire exactement ce qu'il avait fait au Colts.
Ouais, voilà. Et puis c'est pas incompatible ces deux tight ends là, je trouve. Après, est-ce qu'en fantasy ça diminue un tout petit peu
Je pense qu'en fantasy c'est pas le landing spot idéal pour lui.
Ou Michael Mayer, il prend une claque en fantasy.
Michael Mayer prend une claque, voilà, c'est ça.
Michael Mayer prend une claque, Jacoby Meyers prend une claque aussi à mon avis, parce qu'ils peuvent pas tous être sur le terrain et avoir les distributions de target. Donc si tu as Jacoby Meyers, Davante Adams, Brock Bowers, Michael Mayer, Zamir White comme ton offense de base.
Bah pour moi, Michael Mayer va bloquer, Brock Bowers va rattraper les ballons, donc
mais Jacoby Meyers à mon avis, c'est celui qui passe à la trappe un peu en termes de target. Share.
Peut-être. T'as peut-être raison.
Par contre, pour Zamir White, c'est pas mal parce que Brock Bowers, c'est un super bloqueur dans le jeu à la course aussi.
Non, mais c'est
tout faire, Bowers. Ok, on enchaîne, on a encore un quart d'heure. Donc là, enfin, on a commencé à avoir des défenseurs draftés. Au bout de 15 picks, ça a commencé avec les Colts qui ont pris l'atout. Byron Murphy à Seattle, ensuite une paire de Edge, Dallas Turner pour lesquels les Vikings ont fait un deuxième trade-up et Jared Verse. Si on joue en IDP, ça a peut-être un impact, mais c'est surtout pour dire voilà, quelques bons défenseurs qui ont été envoyés dans ces équipes-là. Pour les Colts, on avait parlé peut-être d'un receveur, mais finalement ils ont pris le meilleur défenseur disponible sur leur board. Autre chose à ajouter à ce moment-là de la draft?
Non, c'est là que ça a commencé à partir.
Les chanceux, tout cela, ce sont des chanceux, ils ont vu tous ces joueurs arriver.
Voilà. Ouais.
Jared Verse, c'est quand même une super bonne pioche.
Ouais, non, mais.
Pour les Rams, dans l'après. L'après.
L'après Donald.
L'après Donald, tout à fait. Même si, attention, c'est pas du tout le même type de joueur, hein, mais ça va faire quand même du bien à cette ligne défensive.
C'est clair.
Ok, alors du coup, on enchaîne. Et là, il y a eu encore des tackles. Amarius Mims pour les Bengals. Je pense très bonne nouvelle pour notre ami Joe Burrow.
Incompréhensible, mais bon, c'est pas grave.
Pourquoi incompréhensible?
Parce qu'ils ont déjà deux super tackles, alors qu'ils sont pas forcément tout le temps en bonne santé. Par contre, tu prépares l'avenir dans un moment où potentiellement tu vas te séparer de un ou deux receveurs en fonction de comment tu joues à l'intérieur, que ta défense ne te permet pas d'aller plus loin parce que même si Joe Burrow met 30 points, ta défense va en prendre 32. Donc en fait, ils avaient l'opportunité, je pense, de prendre un super joueur défensif pour venir mettre un peu plus de liant à l'intérieur. Et que partir sur un tackle que tu vas former peut-être pendant un an, deux ans, tu vas le faire jouer à une autre position, c'est un peu dommage, je trouve. Je trouve que pour le coup, il y a des équipes qui investissent pas du tout. Et pour le coup, les Bengals, c'est une équipe qui investit peut-être un peu trop sur l'ensemble. Parce que le problème de Joe Burrow, c'est pas qu'il n'est pas protégé. Parce que même quand il y a l'année dernière, bon, il n'a pas beaucoup joué, mais même il y a deux ans, quand ils refont une très bonne saison, c'était pas un problème de pas être trop protégé, hein. C'est un problème que c'est un gars où tu peux te poser des questions sur l'état de santé et parfois les blessures qu'il peut cumuler. Donc voilà, c'est, ouais. c'est ça que moi je trouve dommage avec les Bengals. Mais bon.
Ok, ouais, moi j'ai vu que Amarius Mims c'était un mec avec énormément d'upside qui peut jouer garde mais aussi tackle quand un ouais, des deux gars fait. Se blesse en particulier, avec énormément de potentiel. Donc peut-être que ça te fera changer d'avis si ça devient un des meilleurs tackles de la ligue.
Bon, c'est sûr que c'est ce qui va se passer.
Ensuite, encore un tackle à Pittsburgh et Miami, Chop Robinson. Alors, tu m'as écrit ce matin en disant tout allait bien jusqu'au pic 21, on a fait nimp. Explique-toi.
C'est un ouf.
Alors, c'est un super gars, c'est un top athlète. Il n'y a pas de souci, on en parlait un peu dans la communauté. Il y en avait des gens qui étaient très contents de Chop Robinson. C'est juste que ce n'est pas du tout la philosophie du général manager Chris Beyer depuis des années. Il n'a jamais pris le meilleur joueur disponible en tour 1 de draft. Et on s'attendait plutôt à avoir quelqu'un peut-être un peu sur la ligne offensive ou à trade back pour récupérer Xavier Worthy, parce que notre objectif, c'est bien d'avoir une équipe de 4 fois 100 mètres olympique d'ici le milieu de l'année. Donc, en tout cas, c'est un peu un choix incompréhensible. Chop Robinson, c'est un super athlète, je le disais. Par contre, c'est un vrai diamant à polir. On a déjà deux super DN qui sont Bradley Chubb et Jalen Phillips, qui sont tous les deux blessés, qui commenceront peut-être pas le début de la saison. Donc, est-ce que c'est pas un panic move? Au moins, on a quelqu'un à mettre sur la ligne, sur le sujet, qui potentiellement peut apprendre. Je sais pas trop. Et pour moi, c'était pas du tout le need prioritaire. Faut savoir que Miami Dolphins, ils ont essayé de trade back deux fois et que personne a décroché au moment de. Donc, c'est-à-dire que finalement, le pic, il n'était pas hyper intéressant pour une équipe. Et donc, du coup, bon, on se retrouve dans une situation où on prend un joueur défensif alors que. On en a toujours besoin, hein. On n'aura jamais assez de profondeur à tous les postes, mais en tout cas, c'était peut-être pas le gars. C'était peut-être pas le gars que j'aurais pris à ce moment-là. J'aurais pris un Graham Barton qui était capable de jouer sur pas mal de slots dans la ligne offensive pour continuer à aller plus loin avec l'équipe offensive. Voilà, c'est juste mon avis.
Ok. Bah du coup on va enchaîner parce qu'il nous reste un quart d'heure sur les postes offensifs. Quatre receveurs encore ont été pris au premier round, à commencer par Brian Thomas chez les Jags. Bon landing spot probablement, un des meilleurs QB Trevor Lawrence, mais ils ont déjà Gabe Davis et
Christian Kirk,
ouais. Mais ouais, ça devrait être pas mal. Écoute, Brian Thomas, en tout cas, c'est peut-être pas mal pour Trevor Lawrence, qui lui a une belle. Il a perdu Calvin Ridley, mais il récupère Brian Thomas. Une belle. Ouais, 4 bonnes armes, plus Travis Etienne. 4 bonnes armes à la place, plus Travis Etienne, c'est pas mal. Ouais.
Là, il semble avoir tout ce qu'il faut, à peu près. C'est l'année ou jamais, peut-être pour Trevor Lawrence, pour démontrer que.
Ah ouais, il faut passer un palier.
Deuxième.
Une division vachement difficile en plus, hein.
Ouais. Donc super. Non, franchement, c'est un très bon pick de la part de Jacksonville et je pense que ça marchera bien. Qui va jouer dans le slot entre les trois? Je pense que c'est plutôt Gabe Davis. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt Gabe Davis ou plutôt Christian Kirk qui va jouer dans le slot?
Ouais, j'aurais pensé Kirk, mais je n'ai pas suffisamment analysé.
C'est l'année de renégociation. C'est l'année de renégociation de Trevor Lawrence, non, France?
21, 23. Fin de. C'est sa cinquième année, là?
Non, 24, ça doit être sa quatrième. Non, donc,
quatrième il va avoir ouais. Donc il va avoir sa cinquième option. Sa cinquième
voilà, année, après, c'est surtout l'optionnel. Voilà.
Donc, c'est bien l'année. C'est bien l'année où il faut qu'il montre qu'il est le quarterback du futur.
De toute façon, c'est l'année là.
Bah donc du coup, les Jaguars, au moins, ils lui donnent ce qu'il faut. C'est bien.
Ouais. Et au pire, tu installes soit un vétéran pour faire la transition si tu n'es pas assez haut dans la draft, ou potentiellement, t'as le temps de voir venir.
En tout cas, c'est un bon pic en fantasy, et c'est sûr.
Je l'attendais beaucoup plus haut, moi. Mais
bon. Ouais. Bah, les Jags, à la base, ils avaient le pic 17, justement, et je pensais qu'ils le prendraient avec le pic 17, mais ils ont trade back avec Minnesota. Ils ont quand même eu Brian Thomas avec le 23, du coup. Un de mes landing spots préférés, Xavier Worthy aux Chiefs. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Moi, je suis plus Worthy que Mitchell. Il y en a beaucoup qui sont plus Mitchell que Worthy. Moi, je suis assez chaud pour Worthy. Je suis encore plus chaud pour Worthy depuis qu'il est avec Patrick Mahomes. Et je pense que c'est quelqu'un... Je ne sais pas si toi, Antoine, tu viens de faire ta mock draft Dynasty premier round. Il y avait un top 8 un peu évident avec les 4 QB, Bowers, 3 receveurs. Le 9, c'était un peu une incertitude, peut-être Brian Thomas. Moi, je suis assez chaud pour Xavier Worthy au pick 9 maintenant.
Ouais, il sort en pick 10 là, actuellement, et McCarthy en 9. Mais c'est un super joueur dans la vitesse. C'est un joueur qui fait preuve d'irrégularité dans la façon de catcher les ballons. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça sera un Kadarius Toney bis
Est-ce que ça va être Tyreek Hill ou Kadarius Toney c'est la grosse question.
C'est un peu ça le sujet. Après, avec le style de jeu des Chiefs, pour moi, c'est un super pick pour eux. En fait, ils ne pouvaient pas avoir mieux, je pense, sur le premier tour, parce qu'ils seront capables d'envoyer des sweeps, de travailler du jet, d'aller beaucoup plus loin dans le style de jeu. Donc, je pense qu'ils mettent toutes les chances de leur côté avec sa vitesse. Je pense que c'était un joueur, et c'est pour ça que Miami voulait trade back, parce que je crois que c'était le choix numéro 1 de Miami, s'il pouvait le récupérer.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas restructuré Tyreek Hill, donc c'est-à-dire qu'en fait, Tyreek Hill, il lui reste un an à Miami, puis après, c'est au revoir. Donc voilà, je pense que ça faisait partie des joueurs, mais super, franchement, c'est le fit parfait en fantasy, là. Je pense que Worthy va prendre de la valeur très rapidement.
Il y a Marquis Brown, quand même, on est d'accord.
Ouais.
Oui.
Oui, mais Marquise Brown, ça peut être un joueur de profondeur. Là où Worthy, dans la profondeur, pour l'instant, il a besoin de faire un peu de terrain.
Mais avec sa vitesse, tu veux le mettre où dans ce cas-là ?
Non, mais je comprends pas. Non, mais attends, je comprends pas, Antoine, c'est tout l'inverse.
Non, Worthy, je suis pas sûr.
Il est nul, à part pour la profondeur, parce que justement, il est rapide. C'est le seul truc qui est intéressant chez lui, c'est que il a le record de 40 yards dash.
Sinon, sur la première année,
il a plus que 40 yards dash.
Mais non.
Hein, je pense que Worthy, moi sincèrement, je suis persuadé que son 40 yards dash, ça l'a pénalisé, parce que les gens sont persuadés qu'un mec qui court vite aux 40 yards, c'est un bust, et il regarde absolument pas le reste. Mais sincèrement.
Le mec, il drop.
Mais oui, donc tu le mets pas en profondeur, s'il drop.
Mais justement, c'est le problème. C'est qu'en fait, pour moi, les Chiefs l'ont pris pour être, entre guillemets, la profondeur, le nouveau Tyreek Hill, sa rapidité, et le problème, c'est qu'il drop.
Non, mais pour moi, ils ont Marquise Brown pour ça.
Bon, on va voir. Si c'est faire des tracés,
je pense que je suis un peu team France sur la vie. Je le vois plutôt dans ce sens-là, moi. Mais après, vous avez peut-être raison. Mais moi, je le vois plutôt justement dans le genre chercher la profondeur. Pour moi, Val avait dit un truc très juste hier soir. Il a dit c'est un MVS 2.0.
Non, MVS, tu rigoles ou quoi ? Ça n'a rien à voir.
C'est un believer. C'est un believer. Tu veux Worthy, tu as eu le Phoenix en haut, tu vois, quand tu as vu Worthy aux Chiefs, quoi.
Pour moi, c'est Mitchell le MVS.
Exactement.
C'était l'autre receveur de Texas.
J'aurais préféré forcément donner à Mitchell. Enfin, moi, personnellement, je comprends pas que tu montes, tu trades pour ça d'ailleurs. Tu montes. Pour prendre Worthy, je comprends pas.
Pour moi, ils vont l'utiliser en wingback et ça sera un joueur qui aura le ballon très souvent dans les mains au niveau du quarterback pour, avec sa vitesse, accélérer dans les zones, un peu comme est capable de le faire Tyreek Hill par moment.
Pour faire du yak, en fait.
Ouais, exactement. Ouais. Je pense qu'ils vont l'utiliser comme ça sur les premiers mois. Ils vont voir ce qu'il va faire pour le mettre
un peu en bump. Il va se faire dégager, il n'a pas le physique.
Mais c'est pas une question de physique. On disait de la même chose de Devonta Smith. Il regarde ce qu'il a fait aux Eagles. Ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est pas du tout le même profil.
Enfin, ça va pas être la même utilisation. Il est pas là pour faire du yak, Devonta Smith. Hein.
Mais avec sa vitesse, il sera capable de slalomer entre les défenseurs. Hein. En tout cas, sur pas mal d'équipes. je pense que naturellement, ça le mettra en confiance.
Et il après, sort en quoi, Wordy, en mob, tu dis?
Il sort en dixième position.
Était déjà, ouais, il était déjà fin de premier round, mais à mon avis, maintenant, il est...
Ah bah, avec Patrick Mahomes, il progresse, c'est certain. Ouais. Non, je pense qu'ils ont trade-up parce qu'ils avaient peur que les 49ers le prennent peut-être.
Ouais.
C'est la seule explication que je trouve. Parce que les Ravens n'allaient pas le prendre, les Cowboys n'allaient pas le prendre.
Bah, peut-être les Bills allaient le prendre.
Mais du coup, c'est pour ça qu'ils sont appelés les Bills.
Ouais.
Et ils ont fait, c'est qui plaît. Exactement comme ce qu'on a fait nous après.
Ouais. Exactement. Il y a une autre équipe qui a fait la même avec les Bills. Les Bills qui ont décidé de prendre le day off avec les deux derniers picks de receveurs de la soirée. D'abord, Ricky Pearsall à San Francisco, un très bon joueur, mais... qui était vu un petit peu plus bas dans les draft boards, mais potentiellement un bon fit hein, pour San Francisco. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ça veut quand même dire au revoir à Deebo Samuel.
Ouais, potentiellement. Ouais.
Voilà, il prépare le
futur. Ouais.
C'est comme Odunze avec Keenan Allen quelque part. Tu vois,
C'est là.
Seul parce que Deebo, il se blesse et voilà quoi.
Tu vois, c'est là où je déteste, et là je parle à tous les commissionneurs des ligues dans lesquelles je suis qui veulent faire absolument des drafts 4 jours après la draft réelle. C'est ouais. Là où je déteste ce genre de draft. Parce que ça sert à rien. Je veux dire, quel est l'intérêt? Et du coup, Ricky Pearsall, bah, tu vois, on ne sait pas. Ça dévalue Deebo Samuel, ça dévalue Brandon Ayuk. Alors que si ça se trouve, bah, Deebo Samuel, il va être tradé. Enfin, tu vois, je trouve ça un peu con. Alors oui, on flippe coin et puis on verra plus tard, mais pour moi, ce n'est pas de la fantaisie. Bah,
Pour la dynastie, bah c'est, si c'est du redraft, je suis 100% d'accord avec toi. Pour la dynastie, c'est un peu différent parce que tu fais ça après la draft et tu fais de la projection. Tu fais toujours de la projection en dynastie, même ce que tu le fasses en octobre ou en machin.
Là, c'est de la projection de depth chart en plus. Enfin,
en dynastie, c'est un truc sur 3 ans. Tu t'en fous de la depth chart.
Ça m'intéresse pas, moi.
La depth chart en septembre, elle a changé déjà en novembre.
Moi, j'aime pas les situations qui peuvent
être. C'est plus.
Mais oui, regarde.
Bah, si t'aimes pas cette situation flip a coin, tu prends un gars un peu plus safe où t'es sûr qu'il va starter plutôt qu'un Pearsall où tu te dis bah.
Mais du coup, tu dévalues un joueur qui mérite pas d'être dévalué. Tu dévalues un joueur qui mérite pas d'être dévalué. Tu
te chauffes naturellement pour commencer à parler des Panthers. Vas-y, tu peux
en train de s'énerver. Parce que justement, si t'as envie d'avoir un mec safe où tu sais qu'il sera nul à 100%, tu prends Xavier Le Guet. Non, je blague. Non, mais vu qu'on a 5 minutes, pick 32, Xavier Le Guet, trade up. Pour avoir son mot à dire dans le premier jour, alors qu'il aurait été forcément là au pick 33. J'ai vu que tu n'étais pas très satisfait. Tu avais surtout plein de défenseurs qui étaient encore dispo. Vous avez le pick des Giants un peu plus tard, dans 6 ou 7 picks. Et pourquoi Le Guet? Je suis un peu surpris parce que pour moi, c'est un profil extrêmement similaire à Jonathan Mingo. Et je ne comprends pas trop pourquoi avoir ces deux joueurs-là, en fait.
Alors, on pourrait croire, parce que quand tu regardes les proportions physiques, tu peux croire que Jonathan Mingo et Xavier Le Guet, c'est à peu près le même profil, mais en fait, non. Jonathan Mingo est un joueur qui est principalement vu, enfin, je trouve, moi, dans mon avis personnel, un joueur de slot un peu vénère qui vient tabasser des linebackers et des safety. Bon, il se trouve qu'il fait ni l'un ni l'autre, puisqu'il a perdu sa place contre un mec de 54 ans qui s'appelle Adam Thielen. Donc, ça ne sert à rien. Xavier Le Guet, c'est un upside à la AJ Brown, c'est, tout le monde le dit, bon, à la DK Metcalf, soit.
Il a mis du temps avant de sortir.
Il a mis un an.
Il a beaucoup. Joué 4 ans à l'université, à rien
faire. Oui.
Et tout d'un coup, il a joué.
Voilà, exactement. Il a mis un an pour se montrer.
C'est hyper. C'est hyper inhabituel comme profil.
Non, mais c'est surtout le move. À la rigueur, qu'on soit amoureux. Moi, je peux comprendre qu'on soit amoureux. Tous les scouts et tous les gens qu'on travaille dans un front office disent quand on a un board, on le suit, quelle que soit la position. Bon, fine, je veux bien. Mais à quoi ça sert, dans ce cas-là, de trade-up d'une place, de perdre un de tes deux cinquième rounds pour aller chercher un joueur uniquement pour avoir la cinquième année d'option? La cinquième année d'option, moi, je ne comprends pas ce truc-là. Je ne comprends pas qu'on la value autant. La preuve avec Jesse Horn qu'on a aujourd'hui. Jesse Horn, on l'a pris au premier tour. On se retrouve dans une situation où on doit prendre une décision avant le 10 mai, je crois, sur activer ou non la cinquième année en option. Or, il s'est tellement blessé que tu ne sais pas trop ce que tu dois faire. Oui, il est génial sur le terrain, mais à l'arrivée, pareil, là, on est en flip a coin. Et soit on paye Jesse Horn pour sa cinquième année, soit on le laisse partir.
Ouais.
Et là, on prend Xavier Le Guet. Si tu es amoureux, tu vas lui donner un contrat. Et tu vas lui donner un contrat la quatrième année. pourquoi mettre autant de value sur la cinquième année en option? Moi, je ne comprends pas ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore sur le board? Il y avait des joueurs qui étaient des joueurs de premier tour. Il y avait des Aiden Mitchell, il y avait des Cooper Legine, il y avait surtout un centre. Bordel de merde, on va mettre un garde en centre aujourd'hui. C'est ça qu'on va faire avec Austin Corbett. Alors, Austin Corbett, il a gagné une bague. Très bien, il a gagné une barre en garde, pas en centre. Il n'a jamais gagné sa position en centre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a Edwin Cooper qui est encore là. Bref, il y avait encore 5 mecs qui étaient au-dessus. Mais non, on panique. On veut le gars de Carolina parce que ça fait bien avec son accent et tout. Bah, peut-être qu'il sera génial, mais le move est à chier.
En vrai, il y a encore de belles profondeurs sur les centres et les gardes. Hein. Peut-être que, tu vois, sur deuxième et troisième tour.
Mais garde, on s'en fout, on est plein maintenant en garde. On a tout ce qu'il faut en garde.
En centre, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en centre, tu as quand même encore un peu de monde, tu vois, aller chercher. C'est vrai que là où je te rejoins, c'est que le move est sale. Pourquoi tu fais ça? Soit tu savais qu'il y avait une équipe qui allait le prendre, quoi qu'il arrive, en 32. Soit potentiellement.
C'est les Bills. Les Bills ont été malins. Ils ont dit ah ouais, on adore Xavier Leggett. Ah ouais, on adore Xavier Leggett. Tiens, paye. Alors, regarde.
Moi, je voulais juste te montrer. Tu dis que c'est pas des joueurs similaires. Donc, ils ont le même physique. Ils ont des statistiques extrêmement proches. Et sur l'année dernière, donc leur dernière année de collège, sur Reception Perception, où on voit le succès par type de route tracée. Donc, ça, c'est le rouge, c'est inférieur à la moyenne sur la plupart des tracés un peu longs. Mm-hmm. En général, typiquement, les joueurs comme ça, c'est genre Treylon Burks, c'est des gars qui justement peuvent avoir une bonne carrière s'ils jouent le big slot, mais ils sont incapables de jouer à l'extérieur en NFL. Attends, je vais rapidement t'en montrer un autre.
Ah, mais je pourquoi pas? Mais bien sûr, je dis simplement que c'est ce qui se dit. C'est ouais, la raison pour laquelle on l'a pris. C'est ce que Dan Morgan explique.
Non, ouais, j'ai compris. Je te montre rapidement un autre joueur qui avait profil l'année dernière. Malheureusement, je peux pas te les mettre côte à côte parce que j'ai
été pris. C'est toujours le même problème dans les drafts et c'est
voilà, pareil. Jonathan Mingo, exactement pareil. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi ils sont extrêmement similaires. J'ai juste pas compris pourquoi ils ont kiffé ce joueur-là par rapport à, comme tu dis, Aiden Mitchell ou plein de Ladd McConkey.
C'est qu'on n'y croit plus en Mingo. Puis voilà.
Peut-être. Mais c'est étonnant parce qu'il avait montré quelques trucs, ouais. S'il est utilisé correctement, mais
on va voir. Hein. Ça se trouve, il va être pro bowler et je vais être content. Hein.
Ouais. En tout cas, bravo pour ton coup de gueule, ça a mis un peu d'ambiance. Rapidement, parce que je sais qu'il y en a qui doivent partir.
Ouais.
Round, donc ça c'est juste mon image parce que ça me fait penser à notre ami Kirk Cousins avec Michael Penix.
Penix.
J'ai pas l'ordre du round 2 sous les yeux, mais du coup Carolina n'est plus on the clock, c'est les Bills. Je pense qu'on va avoir encore pas mal de receveurs pris rapidement dans le round 2, mais ensuite, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez une bold prediction pour cette nuit?
Pas mal de safety, je pense qu'ils vont sortir, linebacker, et encore pas mal de O-line. Et après, ça sera deep.
Est-ce qu'il y aura un running back drafté aujourd'hui?
Oh bah, je pense ouais. Je pense que Allen, il devrait pas être long.
Oui. Il y a peut-être un monde où il n'y a pas du tout de running back.
Oui, il y a un monde où il n'y a pas de running back drafté aujourd'hui.
C'est possible que le premier qui soit pris, en tout cas, soit Brandon Allen. Pour moi, c'est mon... Moi, après, je fais mon homer en même temps. Mais c'est mon chouchou, quoi, entre guillemets, de la draft. De la, on va dire la classe running back de cette année.
Ouais.
Mais oui, de toute façon, là... en gros, on peut avoir même les Bills qui prennent carrément des jeans direct. Hein. Donc, si tu veux, nous, les Packers, on s'est bien fait enculer encore une fois. Et on a fait encore magnifique. On est encore plus intelligent que tout le monde, comme d'habitude. C'est un peu comme les Panthers. En fait, c'est pour ça que je m'allie avec.
D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de.
Je vais devoir vous laisser.
Mais, comme d'hab, si tu veux, le problème, c'est pas le fond, c'est toujours la forme. Et pour beaucoup d'équipes, hein, comme pour les Panthers. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas nos erreurs à chaque fois. Bon, très, très bien, mais je le connais. La ligne d'Arizona, c'est parce que c'était une super attaque et la ligne était incroyable. Lui, Morgan, bon, d'abord, il va jouer plutôt guard que tackle. Mais pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi quand tu as un board, bon. Tu vois, dernièrement, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule sur les drafts. Je me dis. On n'a rien à foutre, les bords, la logique des rangs, des pics, machin, etc. Je prends le joueur que je veux. Je fais comme les trois Lions. Les trois Lions, quand ils font ça, ils prennent pas n'importe qui. Ils prennent Jack Campbell, ils prennent Jahmyr Gibbs. Tu vois, donc à la rigueur, tu vois, c'est des kiffs par rapport à des joueurs quand même qui sont des gros potentiels qui ont quelque chose. Là, les Panthers, les Packers, on prend des joueurs, what the fuck, quoi. Bon. Comme les Dolphins, ça va. Tout ça, c'est... je ne comprends pas. C'est pas logique. Quoi. Par rapport au pic, par rapport au nombre de pics, par rapport à la position, par rapport aux autres. Voilà. La notion de stratégie, de value, de te dire non, mais je peux attendre, je peux avoir ça. Ou alors tu montes. Genre, on a plein de pics, tu montes. Mais tu fais quelque chose d'intelligent. Et... Bon, allez.
Et bien, sur ces bonnes paroles. Ce soir, où est-ce qu'on suit la draft ? C'est à partir de quelle heure déjà ? Est-ce que c'est à la même heure ? C'est minuit ?
Une heure
française, ouais. Sur, okay.
Il y a des prises d'antenne sur les différentes chaînes minuit, ouais. Pour les chaînes françaises.
Parfait.
Et notamment Triplay.
Parfait, parfait. Merci Antoine, merci Alex, merci à Franz qui nous a déjà quitté pour son meeting. On se retrouve très bientôt pour faire des analyses un petit peu plus poussées, peut-être une petite mock draft. N'oubliez pas notre site web qui a été lancé. On y a mis des rankings, on va y mettre probablement une mock draft. Voilà, si vous ne l'avez toujours pas trouvé, c'est fantasyballers.substack.com. Et n'hésitez pas à nous aider également sur Tipeee, une petite donation, un petit café pour nous aider à payer pour le streaming. Hein. C'est pas gratuit. Et voilà. Bonne journée à tous, bon week-end, bonne fin de suite de draft. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.